Scott Campbell, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer une telle explosion de violence au Kasaï?
Il y a plusieurs racines. D'abord, les forces de sécurité, au lieu de protéger la population civile, commettent des violations graves et sans que d'autres institutions étatiques jouent leur rôle de les contrôler, notamment la justice militaire. Bref, on voit un cycle de violence suivi par l'impunité qui crée un environnement dans lequel personne est tenu responsable pour ses actes, chose qui encourage la répétition de l'utilisation d'une force excessive par les forces de sécurité.
Vous dites qu'il y a un usage abusif de la force par les forces de sécurité. Pourtant, il y a des policiers, des militaires qui sont vraiment tués par ces présumés miliciens Kamuina-Nsapu. Cette violence-là que met en avant le gouvernement, hein, elle existe. Pourquoi est-ce que c'est quand même un usage abusif de la force?
Il y a certainement, et notre bureau a documenté les abus commis par des milices, soi-disant Kamuina-Nsapu, des attaques contre les institutions de l'État, les bâtiments, mais aussi contre les individus, les acteurs étatiques, la police, les militaires, des attaques très sérieuses contre les symboles et les agents de l'État. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous avons dénoncé cela, les Nations Unies, et nous allons continuer à faire des enquêtes là-dessus. En même temps, les acteurs étatiques ont l'obligation de répondre d'une manière proportionnée. Par exemple, s'il y a des membres du milice qui sont désarmés, qui ne représentent pas un danger imminent pour un agent de l'État, pour un militaire ou un policier, ce n'est pas acceptable qu'un militaire ou un policier tire, par exemple, sur quelqu'un qui n'est plus armé. Il y a eu aussi des cas où des maisons brûlées, par exemple, avec des individus dedans.
Il y a une procédure qui a été lancée suite à la publication d'une vidéo tournée à Mwanzalomba. 9 militaires sont en ce moment jugés. Pourquoi c'est insuffisant selon vous?
Bon, nous attendons voir aussi les résultats. Mais vu l'échelle de ce qui se passe dans les Kasaï, nous avons découvert jusque-là au moins 42 fosses communes. Et donc, le fait qu'il y ait un procès en cours, c'est une bonne chose, bien sûr, mais ce n'est que pour nous peut-être un début de ce qui doit être des enquêtes beaucoup plus élargies, approfondies, qui vont jusqu'au bout. Des enquêtes qui les mettent devant leurs responsabilités, malgré leur rang ou leur position politique.
Justement, l'enquête qu'a fait RFI montre que l'un des colonels qui serait impliqué, puisqu'il était en poste là-bas, dans ces 19 fosses communes que vous avez documentées autour de Chimboulou, que ce colonel-là aurait dû être arrêté par la justice militaire depuis plus d'un an dans le cadre du massacre de Kichanga. C'est une procédure qui a d'ailleurs été suivie par les Nations Unies. Comment vous expliquez justement qu'après tout le soutien que vous aviez apporté, il n'y ait pas d'arrestation et qu'on retrouve les mêmes officiers soupçonnés des mêmes crimes finalement 3 ans plus tard?
En fait, je dirais que ça reflète aussi des tendances que nous avons constatées au Congo depuis une vingtaine d'années. Donc, on voit souvent des personnes qui sont alléguées d'être responsables pour des crimes très très graves, soit des massacres, des viols massifs, etc. Mais malheureusement, les personnes responsables restent impunies. Depuis l'époque de la première guerre au Congo, on voit toujours certains acteurs militaires qui sont toujours dans les positions de pouvoir. Et évidemment, c'est ça qui encourage la répétition d'exactement le phénomène que nous voyons aujourd'hui au Kasaï.
Mais est-ce que vous pensez que l'État peut l'ignorer, que le gouvernement peut l'ignorer, que l'État-major peut ignorer, qu'il y a un risque en envoyant la même unité pour faire finalement le même type de travail, de voir se reproduire le même type d'objet?
Bon, ce que nous demandons, les Nations Unies, c'est bien sûr que tous les acteurs responsables pour ce genre de crimes soient traduits devant la justice. Et nous partageons régulièrement les informations avec la justice militaire, avec la justice civile aussi. Évidemment, il y a une bonne collaboration, je dirais, entre les Nations Unies et la justice militaire congolaise. Ça, il ne faut pas l'ignorer aussi. Mais il reste malheureusement beaucoup de cas qui ne sont pas suivis jusqu'au bout et beaucoup d'acteurs qui continuent d'agir dans un contexte de l'impunité.
Le Haut Commissariat a produit un document qui date de 2010 maintenant, hein, qui a plus de 6 ans, et dans lequel vous aviez répertorié tous les crimes commis entre 1993 et 2003. Combien de crimes ont été jugés suite au Mapping Report?
En fait, c'est un rapport qui ne nomme pas des individus. Donc, on ne peut pas parler de combien de cas ont été jugés, mais plutôt des recommandations du rapport qui ne sont pas mises en œuvre. Et notamment, c'est un rapport qui demande un mécanisme juridique spécial pour traiter des centaines et des centaines des cas extrêmement graves, des violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant la période couverte par le rapport. Ce mécanisme, comme vous le savez, n'était jamais créé. La deuxième recommandation qui n'était pas aussi mise en œuvre, c'est la réforme du secteur sécuritaire. Au sein des forces de sécurité, de maintien de l'ordre, malheureusement, il reste beaucoup des acteurs qui étaient impliqués au passé dans les violations de droits de l'homme très importantes, mais avec une impunité totale. Donc, sans un système de justice qui fonctionne d'une manière indépendante, impartiale, c'est difficile de voir une fin à l'impunité en RDC. Donc, du coup, c'est difficile de voir une fin des cycles de violence tels que nous voyons dans les Kasaï.
Scott Campbell, merci.